Bonjour, ici Radio Grand Ciel, Châteaudun, pour notre émission 10 minutes pour bien manger. Au fil des précédentes émissions, nous avons étudié la transformation de nos aliments dans le tube digestif. Notre appareil digestif est équipé pour nous assurer une bonne digestion. Il convient d'ajuster la production alimentaire à nos besoins. Savons-nous qu'actuellement, nous produisons 30% de plus que nécessaire? Il y aurait donc 30% de pertes, ce qui est considérable. Avec l'agriculture biologique, dont le rendement est moindre qu'en agriculture conventionnelle, il y aura moins d'excédents, donc moins de pertes. Et nos volailles seront moins surpeuplées, ce qui évitera les épidémies de grippe aviaire. À cause de l'épidémie actuelle, 500 000 animaux ont dû être abattus dans les régions d'Anjou et de Vendée. Revenons à notre alimentation de base. Elle est élaborée à partir de quatre éléments indispensables: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ces atomes vont se combiner pour former des molécules organiques. À partir des trois premiers, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, vont se former d'une part les glucides riches en sucre, d'autre part les lipides riches en graisse. Glucides et lipides sont les carburants pour notre organisme, carburants apportés par nos aliments qui remplissent notre estomac, puis sont absorbés par notre intestin. Les protides vont suivre le même chemin, estomac puis intestin. Ils comportent en plus de l'azote. Les protides participent au renouvellement permanent de nos tissus qui vont du cerveau à la peau, en passant par tous les organes que renferme notre corps. Ainsi, nous faisons peau neuve comme le serpent, mais de façon plus discrète. Ceux-ci laissent leur ancienne peau comme un tunnel duquel il se dégage, alors que notre desquamation cutanée est beaucoup moins visible. Le renouvellement des cellules de la muqueuse qui tapisse notre tube digestif est également important, puisque son renouvellement complet s'effectue en 3 à 6 jours. À côté des quatre atomes de base qui vont former protides, glucides et lipides, à savoir hydrogène, oxygène, azote et carbone, notre alimentation comporte des électrolytes, des oligo-éléments et des vitamines. Parlons tout d'abord des électrolytes. Ce sont le sodium et le potassium. Le potassium se trouve essentiellement à l'intérieur de nos cellules et les fruits que nous mangeons en apportent beaucoup. Pour le sodium, c'est l'inverse. Il est surtout présent dans le milieu interstitiel qui entoure les cellules et dans les vaisseaux sanguins. Le sodium combiné au chlore forme le sel. Nous connaissons bien sa formule chimique, ClNA, Cl pour le chlore, Na pour le sodium. Le sel est nécessaire à notre organisme. Il retient l'eau à l'intérieur de nos tissus par son pouvoir osmotique. Mais il ne faut point trop en abuser. Si une alimentation discrètement salée relève le goût, en particulier pour les pâtes et pour le riz. Trop de sel dénature le goût et peut favoriser l'apparition d'une hypertension artérielle. En parlant maintenant des oligo-éléments. Ce sont des éléments atomiques, donc de très petite taille, des atomes. Et atome veut dire alpha privatif, je ne peux pas, et tome, c'est coupé. Donc on ne peut pas les couper parce qu'ils sont, y a pas plus petits. L'organisme en a besoin seulement en petite quantité. Le mot grec « oligo » signifie « peu ». On se souvient aussi de nos cours de chimie au lycée où l'on étudiait la classification périodique des éléments qui a été établie par Mendeleïev en 1869. On dénombre 112 éléments qui sont classés selon leur masse atomique et selon la configuration des électrons qui gravitent autour du noyau. Mais seuls une dizaine d'entre eux sont utiles et même indispensables pour notre alimentation. Ainsi, lors d'une alimentation réalisée uniquement par perfusion intraveineuse, ces oligo-éléments doivent être présents dans le flacon perfusé. Alors, les principaux oligo-éléments sont le fer. Il est nécessaire pour fixer l'oxygène sur nos globules rouges. Si nous en manquons, les globules rouges, que l'on appelle aussi hématies, vont diminuer en nombre et en taille. Ce sont surtout des saignements peu abondants mais répétés qui épuise le stock de fer de notre organisme. Le calcium est très important aussi pour notre organisme, en particulier au niveau de notre squelette. En se liant au phosphore, il va former l'hydroxyapatite, qui est le constituant fondamental de la trame osseuse et des dents. Le fluor intervient dans la fixation du calcium au niveau des os et des dents. Le phosphore et les phosphates, outre leur rôle au niveau du squelette osseux, ont une grande importance comme transporteurs d'énergie. Ils transportent l'énergie sous forme d'ATP. A comme 3, et P comme phosphate. Molécule d'adénosine qui est liée à 3 ions phosphore. Sa transformation en ADP, adénosine diphosphate, libère un ion phosphore. Et cette libération produit une énergie importante qui permet entre autres la contraction de nos muscles. Quant au magnésium, il se dépose dans notre organisme par moitié au niveau des os et pour le muscle. Pour l'iode, cet élément est indispensable au bon fonctionnement de notre glande thyroïde. Quant au zinc, il est nécessaire à l'action de nombreuses enzymes. La plupart sont en rapport avec la croissance et avec la cicatrisation. Comme le fer, il est surtout apporté par la viande rouge. Quant au sélénium, sa carence entraîne l'apparition d'une cardiomyopathie gravissime, donc on en a un peu besoin. Citons enfin le cuivre, le chrome et le manganèse, oligo-éléments que l'on prend toujours à petite dose, c'est suffisant, mais c'est nécessaire. Pour terminer, disons un mot des vitamines. Ce sont également des substances indispensables pour nous maintenir en forme. Comme les oligo-éléments, elles agissent à dose minime. La carence en vitamines entraînait autrefois des fléaux très répandus. Le scorbut, avec des hémorragies au niveau des gencives, la pellagre avec ses lésions cutanées, le beriberi qui entraînait des troubles sensitifs aux moteurs au niveau des membres inférieurs et une insuffisance cardiaque, le rachitisme qui entravait la construction de la charpente osseuse. La vitamine C est un véritable carburant pour notre organisme. Elle participe au maintien de notre énergie vitale. En effet, c'est à partir de l'acide citrique que va se constituer le cycle de Krebs qui permettra de retransformer l'AD en ATP pour, comme nous l'avons vu déjà. Nous avons besoin de 100 mg par 24 heures seulement en vitamine C. Il est donc inutile d'en plus d'un gramme par jour, car au-delà, les capacités d'absorption de notre intestin sont saturées. Parmi les vitamines du groupe B, B comme Béatrice, 7 sont utilisées. La vitamine B12 est seulement d'origine animale. Dans les régimes végétaliens stricts, il faut donc en apporter un complément qu'on peut se procurer en pharmacie. Sinon, va apparaître une anémie pernicieuse. La vitamine A améliore notre vue. La vitamine D est surtout synthétisée sous la peau grâce aux rayons du soleil. Elle constitue une aide précieuse pour une bonne utilisation du calcium qui est apporté par notre alimentation. La vitamine E est bonne pour la reproduction. La vitamine K est un facteur important pour la coagulation du sang. En conclusion, avec une alimentation simple et variée, nous, de ces petits éléments, remercions-en notre Créateur qui nous permet de plus en plus d'approfondir nos connaissances grâce à l'esprit de son Saint-Esprit. Au revoir, chères auditrices, chers auditeurs, et à une prochaine fois.